Good morning again.
Donc bonjour encore.
I will admit, you guys are a lot tougher than I am.
Vous êtes plus tough, plus dur, plus fort que moi.
I am burning up with your weather.
Je brûle avec votre climat.
But with this warm weather, that doesn't give you an excuse to fall asleep during the preaching.
Mais ne prenez pas votre climat, la chaleur, comme une excuse de vous endormir. Essayez de rester réveillé.
I'm keeping my eyes on Lucas over here.
Je surveille Lucas.
All right, if you have your Bibles, please turn to Romans chapter 12.
Si vous avez vos Bibles, tournez dans Romains chapitre 12.
And in just a minute, we'll be looking at verses 1 and 2.
Et dans quelques minutes, on va regarder dans versets 1 et 2. Romains chapitre 12, c'est la page 863, pour ceux qui ont la même pagination, la page 863, Romains chapitre 12.
I think maybe some of us in here have heard of the phrase, all that glitters is not gold.
Donc peut-être vous avez déjà entendu cette expression là, ou vous avez peut-être une expression semblable en français, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Historians have labeled the Klondike River gold rush in the Yukon Territory in Canada in the 1890s as one of the last greatest gold rushes.
Donc les historiens, ils démarquent un peu la ruée vers l'or qui s'est passée dans le Klondike au Yukon au Canada dans les années 1890 comme étant la dernière des grandes ruées. Maybe you want to cut a little bit shorter.
Yeah, that was a long one. When news spread that gold had been discovered, they estimated 100,000 people moved to try and find gold.
Okay. Get to the rhythm then. Donc ils ont estimé qu'il y avait à peu près 100 000 personnes qui ont rué là vers cette trouvaille d'or.
But in the end, only 30 to 40,000 made it there alive.
Mais seulement 30 à 40,000 ont réussi à s'y rendre vivants.
Because many people didn't understand how difficult it would be to travel there.
Parce que beaucoup n'ont pas compris la difficulté de se rendre au Yukon.
Many had to cross rugged mountains.
Il y avait des montagnes rudes.
And frozen fields and lawless villages.
Il y avait pendant l'hiver c'était gelé dur et il y avait des villages de sauvages.
And so we had 100,000 people start, and only 30,000 made it there alive.
100 000 qui commencent et 30 000 qui se rendent.
And for those that did make it there alive, life in this region only brought frustration and financial ruin.
Et pour les 30, 40 000 qui se sont rendus, la vie n'était que frustration et ruine financière.
One historian wrote this: only 4,000 found any gold at all.
Un historien a dit qu'il y avait seulement 4,000 pour trouver de l'or.
Of the 4,000, a few hundred found gold in quantities large enough to call themselves rich.
Et seulement de ces 4,000 qui ont trouvé de l'or, seulement quelques centaines, ont trouvé assez d'or pour être appelés riches.
And out of these few, only a handful managed to actually keep their wealth.
Et de ceux qui ont eu assez pour se considérer riches, seulement une poignée de personnes ont pu le garder quelconque temps substantiel.
You may be in and you're like, why are you telling me a story about a gold rush?
Mais peut-être vous vous demandez pourquoi vous nous parlez d'une ruée vers l'or.
Sometimes many people think if they could just get this one thing, I'll be happy.
Parfois, les gens pensent, si je pourrais juste avoir cette une chose, ah là, je serais content.
These people thought, if they could get gold, oh, that's all I need in life.
Ces gens pensaient, oh, si seulement je pourrais avoir de l'or, là, ce serait frais pour la vie.
Maybe for us, it's not gold. Maybe, oh, if I could just get this job, that's going to make me feel happy.
Peut-être, pour vous, personnellement, c'est peut-être pas de l'or, mais c'est peut-être, oh là, si je pourrais juste avoir ce travail-là, oh là, cet emploi-là.
Or if I could have this person, if they could be my best friend, if I could have a special relationship with this person, oh, then I'll be happy.
Ah, si j'avais seulement une personne comme ça, là, comme celle-là, là, si je pouvais juste avoir une amitié avec cette personne-là, ça serait merveilleux.
Or if I could get a new house or a new car,
oui.
Then I'll be happy.
Une nouvelle maison ou une nouvelle auto, quelque chose, je serais content.
And far too many get down this path.
Et beaucoup trop arrivent sur ce sentier.
And they realize that what they were pursuing.
Et là, ils réalisent que ce qu'ils cherchaient.
Turned out to be fool's gold.
Ça a tourné à être du faux or.
And the text we've turned to today in Romans chapter 12.
Le texte dans lequel on regarde dans Romains 12.
It tells us we can know for sure what the will of God is for our life.
On peut savoir ce que la volonté de Dieu est pour nous dans la vie.
We're going to drop into the middle of verse 2 before we go back to verse 1.
On va commencer au milieu du verset 2 avant qu'on revienne au départ.
But look at the last phrase of verse 2.
Regardez la fin du verset 2.
It says that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
The word prove means to learn the genuineness of something by examination and testing.
Alors le mot ici traduit par discerner, ça implique de vraiment voir la nature de la chose et de tester la chose pour en connaître la nature.
So we can know what real or genuine gold is in terms of the will of God.
Par rapport à comparer à l'or, là, pour voir vraiment si quelque chose est de l'or, vis-à-vis de la volonté de Dieu, on peut vraiment voir, tester qu'est-ce qui est vraiment la volonté de Dieu.
And look at the descriptions of the will of God. Good, acceptable, and perfect.
Et regardez comment la volonté de Dieu est décrite. Bonne, agréable et parfaite.
Okay, there is nothing better than the will of God. This is real gold.
Il n'y a rien de mieux que la volonté de Dieu. Ça, c'est du vrai or.
It's perfect.
C'est parfait.
A couple of times with my wife Anna Faith and I have only been married for 6 months.
Ma femme et moi, on a juste été mariés jusqu'à maintenant 6 mois.
And usually after the two of us eat, I help clean the table and put the leftovers away.
Et après qu'on mange, souvent j'aide avec le ramasser puis de remettre le reste.
And there've been a couple times where I thought the food could fit in a certain size of a container.
Et parfois avec ce qui restait, je pensais qu'un plat de telle taille pourrait contenir tout.
And then once I started putting stuff in, I realized, it's too small.
Et là, une fois que je commence, là, je réalise, j'ai pris trop petit.
And somehow my wife always knows the perfect size container.
Pour une raison que je comprends pas encore, mais ma femme elle connaît toujours la taille qu'il faut pour savoir qu'est-ce qui va rentrer dedans.
She'll get this container out and put the food in, and it fits. Perfect.
Elle prend un contenant et elle met la nourriture, ça va toujours parfaitement dedans.
Okay, that food fits perfectly in that container. That's what it's like, the will of God, it's perfect.
Ça c'est une illustration de la volonté de Dieu, et c'est parfait.
And we can know what God's will is for our life. And there's nothing better. This is what we want.
On peut connaître la volonté de Dieu pour nous personnellement et il n'y a rien de mieux que ça.
And what we have when we start back at verse 1.
Et ce qu'on a quand on recommence au verset 1.
We will see that the writer here, Paul, he will give us 4 steps in proving the will of God.
L'auteur, l'apôtre Paul, nous donne 4 étapes pour discerner correctement la volonté de Dieu.
And at the start of verse 1, we will see that the first step to living in the will of God.
On va voir le premier pas à discerner la volonté de Dieu.
Is salvation.
C'est le salut.
When we read in verse 1, it says, I beseech you therefore.
Il dit, je vous exhorte donc.
Okay, this word therefore ties us back into Romans 1 through 11.
Ça nous ramène à ce qu'il avait développé, chapitre 1 à 11.
In Romans chapter 1, the theme is the gospel. In chapter 1, verse 16, the gospel.
Donc au chapitre 1, il commence avec le thème du salut, de l'évangile.
And it's the gospel. It's the power of God to salvation to those who believe.
La bonne nouvelle, l'évangile, c'est la puissance de Dieu ou du salut de ceux qui croient.
And in verse 1, when we read it, it says he refers to these readers as brethren. I beseech you therefore, brethren.
Et il dit, je vous exhorte donc, frères. Il parle de frères dans la foi.
Okay, he's referring to these readers as fellow believers.
Donc il parle d'eux comme étant des personnes qui ont aussi cru en Jésus.
And then the next phrase, he appeals on the mercies of God.
Et il réfère ensuite aux compassions de Dieu.
Again, this is an indication that Paul is writing to people that have turned to Christ in saving faith.
Donc c'est une indication qui parle des gens qui s'étaient tournés à Jésus pour être sauvés par lui.
They believed that Jesus Christ alone can save from sin.
Ils ont cru que Jésus seul pouvait les sauver de leurs péchés.
And folks, if the first step to living in the will of God, if we're going to get to that last phrase of proving the will of God,
on va arriver à l'aspect à la fin, discerner la volonté de Dieu, mais le premier pas, c'est le salut.
Then one application we can make,
alors une application, c'est,
is that you will never know God's best for your life.
Vous ne connaîtrez jamais le meilleur que Dieu a pour vous.
Until you first come to grips with your sinful condition.
Vous ne ferez jamais ça jusqu'à ce que vous veniez à reconnaître pleinement la condition pécheresse.
And turn to Christ as your only savior.
Et vous tournez à Jésus-Christ comme étant le seul sauveur.
But it probably isn't hard for you to think of someone that you believe is saved. But
mais peut-être vous pensez à quelqu'un qui pense être sauvé ou se déclare ou professe connaître Jésus.
But you wouldn't say they're not living in the will of God.
Mais vous pensez pas la manière que ça va, qu'il vit selon la volonté de Dieu.
There is another step that must be taken.
Il y a un autre pas après ça, après le salut.
And it is the step of surrender.
C'est l'étape où on se rend à Dieu.
On the basis of the mercies of God, we see in verse 1,
sur la base des compassions de Dieu,
now we are to present our bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service.
On est exhorté à offrir nos corps comme un sacrifice vivant.
This surrender is very practical.
Alors, comme ça, de se rendre à Dieu pour le son service.
We are told here to actually present our physical bodies, our hands, our eyes, our feet, our ears.
Ça a un côté très très tangible. On parle d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, donc nos oreilles, nos jambes, nos bras, nos yeux.
Okay, and when he says a living sacrifice, that is saying this is a daily sacrifice.
Et quand il parle d'un sacrifice vivant, ben là on parle d'à chaque jour, la vie.
In the Old Testament, they offered animals as a sacrifice. That was a one-time thing.
Dans l'Ancien Testament, dans les sacrifices qu'ils faisaient, c'était une fois que le sacrifice était fait, c'était fait.
But for us, as living sacrifice, we are told to present our bodies every day.
Mais nous, en tant que sacrifice vivant, ben on doit le faire à chaque jour.
And I love how the phrase, how the verse finishes, which is your reasonable service.
Et la manière, j'aime beaucoup la manière que ça finit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
It's only reasonable that we give our lives to the one who gave his life for us.
Ce n'est que raisonnable que nous on donne en retour nos vies à celui qui a donné sa vie pour nous sauver.
Jesus paid it all. He gave us his own life. How could we not give our lives in return?
Jésus a tout payé. Il s'est donné en sacrifice. Et comment est-ce que nous on ne donnerait pas notre vie en retour à lui?
And if this is a, if this step of surrender is a means to living in the will of God,
si ce pas de se rendre à Dieu, de s'offrir à Dieu, si c'est un pas dans connaître la volonté de Dieu,
this surrender is not just for pastors and evangelists and missionaries.
Alors on parle que le fait de se donner en sacrifice ou vivant, c'est pas seulement pour les missionnaires, pour les pasteurs, pour les personnes à temps plein dans le ministère.
No, it's for anyone that wants to live in the will of God.
C'est pour tout le monde qui veut vivre dans la volonté de Dieu.
Anyone that wants to experience God's best for their life.
Tous ceux qui veulent vraiment avoir et vivre ce que Dieu a planifié de meilleur pour eux.
So the first two steps to living in the will of God, salvation and then surrender.
Alors les deux premiers pas, c'est le salut d'abord, puis ensuite de se rendre et de se donner à Dieu.
And then there are two more steps given in verse 2.
Il y a deux autres pas qui sont donnés dans les prochains versets.
The third step to living in the will of God for your life is separation.
Le troisième étape, le troisième pas, c'est se séparer.
Look at verse 2. And be not conformed to this world.
Ne vous conformez pas au siècle présent.
This tells us we must battle conformity to the world.
Alors on doit se battre, lutter contre la conformité aux choses de ce monde.
The world is actually represented as doing the action.
C'est le monde qui représente, qui est décrit ici comme faisant l'action.
The world is trying to pressure us into adopting its values and priorities.
C'est ce monde qui nous met la pression pour se conformer à eux.
In this verse, it tells us, don't be passive, don't just sit back and let the world come at you.
Donc le verset, c'est de ne pas être passif et de simplement laisser ce monde nous conformer à lui.
I have two older brothers, and all of us played baseball growing up.
J'ai deux grands frères et on jouait au baseball quand on grandissait.
And my oldest brother Samuel, he was a really good pitcher, but he was horrible at batting.
Mon grand frère Samuel, il était un bon lanceur, mais il était pas bon à frapper.
But my next brother Daniel, he was the opposite. He's a big guy, strong, and he was a great batter.
Mon grand frère Daniel, le deuxième, lui, il était grand et c'était l'opposé. Il était très bon à frapper la balle.
Okay, but one time my brother Daniel, he was standing in the batter's box and a crazy pitch from the pitcher hit his elbow right on the corner.
Alors,
of his elbow.
Une fois mon frère Daniel était là prêt à frapper la balle et la balle arrive puis ça le frappe au coude.
And he got a big old knot and bruise on his elbow.
Ça grossit, un gros bleu.
And that hurt my brother so much that he was so scared any time he was in the batter's box.
Après ça, il s'en est rappelé, puis il avait une peur là quand il venait pour frapper la balle.
And so I said, Daniel, you need to swing the bat, get the ball out of there.
Et je dis à mon frère Daniel, oublie ça là, il faut vraiment que tu frappes la balle pour l'ôter de là.
If you don't swing the bat, the ball is just going to come at you.
Si tu fais pas le mouvement de frapper la balle avec ton bâton, la balle va venir vers toi.
Don't just sit in the batter's box passively.
Ne sois pas là passif.
And this is what Paul is saying. Hey, don't just sit back and let the world come at you.
C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ne restez pas là passif, simplement laissez le monde venir vers vous.
My dad has told me, you don't have to pursue worldliness to be worldly.
Mon père me disait, tu n'as pas besoin de rechercher la mondanité pour être mondain.
Because the world is coming at us with music and movies and entertainment.
Parce que le monde vient à toi par la musique, par le divertissement, par la télévision, par les films.
And if we don't do anything to battle, to fight against this world, we're going to be just like it.
Et si nous, activement, ne s'oppose pas à cette conformité, on devient comme eux.
And Paul is saying, hey, if we want to be able to prove the will of God, you're going to have to battle, you're going to have to fight against this world.
Mais l'apôtre Paul dit, si on veut vraiment trouver la volonté, la bonne et agréable et parfaite de Dieu, on va devoir passer par là de lutter contre cette conformisation au monde.
But again, you might know someone that you believe is saved.
Peut-être tu connais quelqu'un qui, oui, il est sauvé.
And at one point, they tried really hard to live surrendered to the Lord.
Et à un certain point, oui, il essayait vraiment vite d'une façon à être un sacrifice vivant.
And maybe for a time, they lived with relatively high standards of separation.
Et peut-être pour un temps, ils se tenaient loin du monde et gardaient leurs standards hauts et différents du monde.
But yet, you would say, they're not living in the will of God.
Mais après ça, vous dites, je vois, ils vivent pas dans la volonté de Dieu.
They haven't found true gold yet.
Ils n'ont pas encore trouvé l'or de la volonté de Dieu.
Okay, there's a fourth step.
Il y a une quatrième étape ici.
The next part of verse 2 tells us that we ought to be transformed by the renewing of our minds.
Donc, la deuxième partie de verset 2, ça nous dit qu'on devrait être transformé par le renouvellement de l'intelligence.
I'm going to label this fourth step saturation.
Je vais appeler cette quatrième étape, la saturation.
And though it isn't stated here, the one thing in all the world our mind should be saturated with is the Bible.
Ça ne dit pas spécifiquement, mais c'est implicite que la chose avec laquelle notre pensée, notre manière de raisonner devrait être saturée, ça devrait être saturé avec la parole de Dieu.
The Bible is the milk and meat that we feed on to grow.
La Bible, la parole de Dieu, c'est le lait et la viande avec lesquels on peut grandir.
The Bible is the mirror in James where we see how sinful we are from God's perspective.
Dans Jacques, on voit que la Bible, c'est comme un miroir pour qu'on puisse voir les problèmes dans nos cœurs.
Jesus prayed to God the Father for us in John 17.
Dans Jean 17, Jésus a prié au Père.
And he said, sanctify them through thy truth. Thy word is truth.
Il a dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité.
And when our mind is saturated with Bible truth,
et quand notre manière de réfléchir, quand nos pensées sont saturées avec les vérités de la parole de Dieu,
we are told here that the result will be ongoing transformation.
Que le résultat, ça va être une transformation qui continue.
That's Christian growth.
Ça, c'est la vie chrétienne.
It's being changed to become more and more like Jesus Christ.
C'est la croissance chrétienne de changer peu à peu à l'image de Jésus-Christ.
And what the Spirit of God uses to change me is a word, is a mind that is saturated in the Word of God.
Et ce que le Saint-Esprit utilise pour me changer, c'est une pensée qui est saturée avec les vérités de la parole de Dieu.
And sometimes Bible reading can seem so simple and basic.
Peut-être on pense parfois que la lecture de la Bible, c'est tellement de base, c'est tellement simple.
Okay, I gotta read my chapter a day.
Ah, je vais lire mon chapitre par jour.
And we could actually start to neglect Bible reading as if there are better ways to grow.
Et parfois on pense un peu simpliste, là, simplement lire la Bible. Oh, c'est... Là, on pense peut-être qu'il y a des meilleures manières de changer.
But that's never the case if we're going to grow.
Mais ce n'est pas le cas si on est pour grandir.
And we're never going to be able to experience the will of God if we neglect it.
Et on ne pourra jamais vraiment expérimenter et vivre selon la volonté de Dieu si on néglige sa parole.
The fact that God outlines these straightforward, these four steps.
Le fait que ici les quatre étapes sont délimitées.
It tells us that God wants us to live in His will.
Dieu veut qu'on vive dans sa volonté.
God wants us to experience His best.
Il veut qu'on expérimente ce qu'il a de meilleur pour nous.
I know that many teenagers and college-age students, they have a lot of big decisions ahead of them.
Je sais que les adolescents ou les universitaires, les jeunes adultes, ont parfois des grands plans de ce qu'ils espèrent pouvoir faire.
And adults, I know you all have much bigger decisions to make as well.
Des décisions par rapport à qu'est-ce qu'on va faire. Aussi les adultes aussi, parfois on a des grosses décisions par rapport à qu'est-ce qu'on va faire.
How will we know what God wants for us?
Et comment est-ce qu'on va décider et découvrir et savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous?
Folks, we can be convinced that God isn't trying to make it hard for us to live in His will.
On peut savoir vraiment que Dieu ne le rend pas difficile de connaître sa volonté.
The issue is, am I saved?
Premièrement, la question c'est, est-ce que je suis sauvé?
Am I living surrendered?
Et deuxièmement, est-ce que j'ai offert mon corps comme un sacrifice vivant?
Am I living separated, battling against the world?
Est-ce que troisièmement, je vis d'une manière là, lutter là contre la conformisation au monde?
And am I fourthly saturated in the Word of God?
Et quatrièmement, est-ce que je suis saturé avec la parole de Dieu dans ma manière de réfléchir?
Taking these steps, we can arrive at God's very best in His will.
Et quand on prend ces quatre pas-là, on peut vraiment connaître la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu pour nous personnellement.
But leaving one of these steps out, we could end up pursuing what turns out to be fool's gold.
Mais si on néglige une étape ou un autre, on va peut-être trouver une pierre qui ressemble à de l'or, mais qui n'en est pas.
And let me just challenge you as we close this morning.
Laissez-moi vraiment vous mettre au défi ce matin.
Maybe there's someone in here, you are saved.
Peut-être ce matin, il y a quelqu'un ici qui, bon, peut-être vous êtes vraiment sauvé.
And maybe one of these next steps, surrender, separation, saturation, maybe one of those, you need to make a new commitment to the Lord.
Et peut-être c'est au niveau d'une des trois autres étapes que vous avez vraiment besoin de vous engager devant Dieu.
But if there's someone in here that has never truly been broken over their sins.
Mais peut-être il y a des gens ici qui n'ont jamais vraiment été brisés dans leur cœur par rapport à leur péché vis-à-vis de Dieu.
It doesn't matter if you have the last three steps.
Même si vous essayez d'avoir les trois dernières étapes.
Because the first step to experiencing God's best for your life, it begins with salvation.
Parce que c'est vraiment le premier qui est le fondement des trois autres. Il faut avoir une vraie relation avec Dieu d'abord.
Because the will of God for everyone in here.
Parce qu'on sait que la volonté de Dieu pour tout le monde ici.
Is that they would have a personal relationship with Himself, with God.
C'est qu'ils aient chacun une relation réelle, personnelle avec lui.
God is not willing that any should perish.
Dieu ne désire pas qu'aucun périsse.
But that all should come to repentance.
Mais que tous viennent à la repentance.
Amen.
On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci que c'est toi qui as une volonté parfaite pour chacun. Et on sait que ta volonté commence avec le fait que tu ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu nous dis dans 1 Timothée 2, Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, Seigneur Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre toi et nous, Seigneur Dieu, c'est Jésus, le seul médiateur. Seigneur, ça c'est ta volonté de départ pour tout le monde. Tu veux que tout le monde soit sauvé. Mais ensuite, tu nous dis, Seigneur, clairement, comme c'est indiqué ici, que tu as une volonté propre et personnelle pour chacun. Une volonté qui est bonne, qui est agréable, qui est parfaite, Seigneur Dieu. Et Seigneur, qu'ensuite, après être sauvé, tu veux qu'on donne notre vie en retour comme un sacrifice vivant pour toi. Tu veux qu'on lutte contre la conformisation à ce monde, qu'on ne se conforme pas, qu'on ne soit pas conformé à ce monde qui, par défaut, nous conforme à ses valeurs, à sa perversion, à ses mauvaises choses. Seigneur, ensuite, tu veux qu'on sature de ta parole, qu'on soit renouvelé à chaque jour par les vérités de ta parole, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse vraiment pouvoir discerner comme il faut ta bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu pour chacun. Donc, je te prie que tu puisses travailler dans le cœur de chacun ici. Tu sais où ce que les gens sont rendus. Tu sais s'ils sont sauvés ou pas, réellement. Ensuite, tu sais, pour ceux qui te connaissent, Seigneur Dieu, ce que toi tu connais, Seigneur, tu connais le pas, s'il y en a vraiment à avoir besoin de mettre en pratique, Seigneur Dieu, ou d'être renouvelé dans la mise en pratique de ces étapes-là. Donc, on te prie que tu puisses toucher le cœur de chacun ici ce matin. On te prie, au nom de Jésus.
Amen.
Si ça touche votre cœur, et que vous savez que vous avez besoin d'être sauvé, ben ne partez pas simplement en disant, ok, j'y penserai un autre jour. Non, venez nous voir. Ou si c'est une dame, mon épouse, ou son épouse, si vous parlez directement. Mais si vous avez des questions, posez-les pour qu'on puisse ouvrir la Bible avec vous, puis vous montrer c'est quoi la repentance selon la Bible, c'est quoi la tristesse selon Dieu qui mène au salut, c'est quoi la vraie foi, c'est quoi la foi qui sauve. Pas la foi juste générique, de reconnaître qu'il y a un Dieu, puis de se confier en Dieu de façon générale. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais de vraiment avoir la foi qui sauve, c'est quoi? J'espère que vous nous laisserez l'occasion de vous ouvrir la Bible, d'ouvrir la Bible avec vous, et de vous montrer. Donc ne quittez pas ce lieu sans vraiment régler le cas de votre âme avec Dieu, selon la parole de Dieu, si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, donc, qu'on puisse vraiment s'attarder sur ces autres étapes-là, parce que Dieu veut qu'on accomplisse sa volonté. Dieu a une volonté pour nous personnelle, pour ne pas qu'on fasse selon notre volonté est tortueuse par défaut. Donc, on va chanter.